de l'histoire de l'humanité, tout simplement. Et nos grands-parents, en fait, quand ils n'avaient que peu de livres, en avaient au moins deux, qu'on leur remettait au jour de leur communion solennelle, j'allais dire comme livre de prix. Le premier, c'était bien sûr un missel, et l'autre, c'était l'imitation de Jésus-Christ, souvent très bien relié, si bien que pour ne pas l'abîmer, on ne le lisait guère, mais vous trouvez dans toutes les armoires des grands-mères le missel de la communion solennelle et l'imitation de Jésus-Christ. Et l'imitation de Jésus-Christ, on vous la donnait généralement dans une traduction du début du XIXe siècle, celle de Félicité de Lamennais. Et c'est celle que nous suivrons dans ces entretiens, non pas qu'elle soit la meilleure, et je dirais même qu'elle n'est pas très bonne, mais elle a été tellement diffusée qu'elle est devenue à son tour un classique de la littérature française, et que nous corrigerons un certain nombre d'erreurs, je dirais, significatives. Mais ces corrections nous aideront au fond à bien lire l'imitation. Alors, qui était ce Lamennais? Félicité de Lamennais était le frère de Jean-Marie de Lamennais, le fondateur des Frères de l'Instruction Chrétienne et qui a tant fait pour les écoles primaires en Bretagne. Mais Félicité finira moins bien que son frère, très engagé sur le plan politique durant la Restauration, après la Révolution française. Après les mises en garde et même les condamnations de Rome, eh bien, il préférera quitter le sacerdoce qu'il avait reçu lorsqu'il était jeune homme, et même quitter l'Église. Et c'est certainement, je dirais, l'un des grands échecs de la Renaissance catholique de la France au XIXe siècle, que la perte de tout ce que on appelait déjà les démocrates chrétiens. En tout cas, cette traduction, justement, se caractérise par une volonté de trouver dans l'imitation de Jésus-Christ un art de vivre en chrétien, mais finalement assez peu surnaturel, comme nous aurons l'occasion de le voir. Et je voudrais, au cours de ces entretiens, remettre l'imitation dans son contexte proprement spirituel et même mystique, et nous verrons comment ce livre a contribué de façon vraiment majeure à la formation de l'âme du chrétien d'Occident depuis 5 siècles. Depuis 5 siècles, parce que l'origine de l'imitation de Jésus-Christ est très controversée. Il est sûr que nous sommes au début du XVe siècle. Il est plus que probable que nous sommes dans la basse vallée du Rhin, aux Pays-Bas, et que l'auteur est un certain Thomas à Kempis. Kempen est une ville, une petite ville située au bord du Rhin, en dessous de Deventer, aujourd'hui aux Pays-Bas, et c'est de là que provient Thomas. À 90%, on peut être sûr que c'est lui l'auteur, ne serait-ce que parce que le latin dans lequel est rédigé l'imitation de Jésus-Christ a certaines tournures qui montrent que la cervelle qui a pensé ce latin-là était une cervelle néerlandaise. Il y a des flandricismes dans le latin de l'imitation. Alors nous sommes donc au début du XVe siècle, nous sommes durant la guerre de 100 ans, et l'imitation reflète une époque troublée, une époque qui n'attend pas grand-chose de son siècle, une époque qui cherchera à l'intérieur de l'âme ce qu'elle ne trouve plus à l'extérieur. Alors, le milieu dans lequel évoluait Thomas à Kempis est celui que l'on va ultérieurement appeler le milieu de la dévote.